La présence du Seigneur est là et il veut nous parler d'une certaine façon. Il veut surtout nous rappeler qu'il est le Dieu de l'infiniment grand, le Dieu de l'infiniment petit, et qu'il voit toutes choses, qu'il voit dans les moindres recoins de nos vies et de nos cœurs, et qu'il entend aussi le moindre cri d'angoisse, le moindre soupir, qu'il voit la moindre détresse comme la plus grande détresse. Je vais juste vous parler ce matin de la puissance de Dieu que nous avons vu délivrer un homme qui était dans une grande détresse, plus que nous tous ici ensemble. Nous étions en Côte d'Ivoire dans une grande campagne d'évangélisation et le Seigneur Jésus a vu la détresse profonde, terrible, catastrophique d'un homme. Un seul homme au milieu d'une foule de 6000 personnes. Mais cet homme-là, le Seigneur, dans sa compassion, est venu le chercher là où il se trouvait. Il y avait des milliers de personnes, des centaines de malades, des centaines d'infirmes. Il y avait des aveugles, des paralytiques, il y avait des sourds, il y avait toute la gamme des grandes souffrances. Mais le Seigneur voyait un homme dans un coin, couché sur une natte. Il était fou depuis 12 ans. Fou comme on en trouve dans nos asiles, dans nos hôpitaux psychiatriques, n'est-ce pas? Mais là-bas, il n'y a pas d'hôpitaux psychiatriques parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en avoir. Alors, il l'avait amené enchaîné avec des cadenas aux pieds et aux mains. Enchaîné, il était couché. Il dormait. Mais c'était un homme qui, depuis 12 ans, errait dans les rues de cette ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants et qui se nourrissait dans les poubelles, voyez le genre, et qui ne s'était pas lavé depuis. Mais le Seigneur, le Tout-Puissant, est venu chercher cet homme. À ce moment-là, nous étions juste après le message d'évangélisation en train de prier pour la multitude de malades qu'il y avait là. Et le Seigneur a libéré cet homme-là en une seconde, ou même une fraction de seconde. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Ne limitons pas la puissance de Dieu. Il est sorti de ses chaînes. On lui a tout de suite, son père était à côté de lui. Il a enlevé le cadenas des pieds et des mains. Ils l'ont amené sur le podium. Et cet homme-là était censé, c'était un homme très intelligent, cadre dans une entreprise auparavant. Et ce jour-là, c'était l'heure de sa délivrance. Parce que le Seigneur, dans sa compassion, touché cet homme, et cet homme, on l'a habillé, on l'a nourri, et on a pris soin de lui, jusqu'à ce qu'il puisse retrouver un travail. Et il a demandé au pasteur de lui enseigner les voies de Dieu. Et tout de suite, dès le départ, il leur a dit, « Maintenant, ce que vous faites, peut-être qu'un jour, je le ferai moi aussi. » De fou à prédicateur de l'Évangile. Il y a une marge, je vous le dis. Seigneur, merci. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux qui entend le moindre cri, le moindre soupir, la moindre détresse et qui vient à notre secours, qui vient aussi nous éclairer lorsque nous en avons besoin. Et ce matin, pour pas être longue, je vais juste dire ce que le Seigneur vient de me dire là, alors que j'étais assise. Il vous adresse, peuple de Dieu ici présent, un message. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début, le Seigneur lit et voit dans les moindres recoins de notre cœur. Il sait tout ce que nous vivons, il sait tout ce que nous pensons, il sait ce qu'il y a dans nos vies, dans les moindres détails. Et vous allez voir. Il vous dit, peuple de Dieu, vous êtes, chacun de vous, chacun de nous, comme un livre ouvert devant moi. Et dans ce livre, il y a des pages ouvertes. Le livre est ouvert. Et le Seigneur, il lit. Il lit certaines choses dans certaines vies et d'autres choses dans d'autres vies. Et il m'a montré que dans tous ces livres ouverts que nous représentons devant lui, parce que nous sommes ses enfants, il y a des pages qui sont très bien écrites, de belles écritures. C'est beau à voir, c'est magnifique. Il y en a d'autres, les lettres sont un peu tordues. Quand des lettres sont tordues, on ne peut pas bien lire le message. Et dans ta vie, on ne peut peut-être pas bien lire le message de l'Évangile. Alors le Seigneur te dit simplement, il serait temps que tu révises ton écriture, que tu revoies un petit peu ta vie et que tu changes tes lettres tordues en les faisant droites. Il y avait d'autres pages dans ces livres où il y avait comme des taches noires, des taches qui gâtaient la page. On n'avait pas trop envie de regarder ça parce que il y avait bien des belles écritures, mais il y avait aussi des taches noires. Alors, là aussi, que notre robe, quand le Seigneur reviendra, soit retrouvée blanche, propre, sans tache ni ride. Car l'épouse qu'il viendra chercher, elle sera sans tache ni ride. Alors, s'il y a des taches sur tes pages, tu ferais bien d'y prendre attention et de les enlever. Et d'autres tâches, m'a dit le Seigneur, d'autres pages, m'a dit le Seigneur, sont... Une partie était grise, une partie blanche, une partie grise, moitié, moitié. Ça signifiait la confusion. Alors, veille à ce qu'il n'y ait pas de confusion dans ta vie. Si tu en as, si tu es confuse ou confus, alors le Seigneur te demande de rectifier aussi cela et de venir te pencher sur la parole de Dieu afin que la parole de Dieu elle-même enlève, lave toute cette confusion qu'il y a dans ton cœur. Ensuite, il y a d'autres pages. Cette fois, de ces pages-là, se dégagent des cris de détresse. Il y a un peu de tout au milieu de nous. Des cris de détresse qui montent vers le Seigneur. Des cris de souffrance. Alors, le Seigneur, aujourd'hui aussi, vient rencontrer ces cris-là. Il va venir apaiser ta souffrance. Il va venir te toucher dans ta souffrance. Alors prépare-toi, toi qui fais monter des cris de détresse, de tes pages. Attends-toi à l'intervention de la compassion de Dieu. De certaines d'autres de ces pages, ce n'est pas des cris de souffrance qui se dégagent. Ce sont de fausses notes. Ça fait mal aux oreilles du Seigneur. Il y a certaines choses que tu dis qui font mal au Seigneur. Et par ce que tu dis, le Seigneur voudrait purifier tes lèvres. Purifier ton cœur et purifier tes lèvres. Et que son Saint-Esprit ne soit plus attristé au travers de ce que tu vis. Ce sont des paroles d'avertissement du Seigneur. Mais dans sa grâce et dans sa bonté, il nous éclaire. Parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Et la lumière, elle fait aussi cela. Et dans la parole de Dieu tout entière, dans les épîtres, comme dans les évangiles, il y a beaucoup de paroles d'exhortation. Si vous remarquez, le Seigneur ne dit pas seulement « ça va bien, tu es bien gentil, tu es bien sage, ah oui, tout va bien dans ta vie ». Non, moi je suis personnellement aussi reconnaissante quand le Seigneur me reprend. Je suis très reconnaissante. Toutes les fois que le Seigneur m'a reprise, d'une façon ou d'une autre, par un moyen ou par un autre. Mais il y a de certaines de ces autres pages, d'autres pages. Pardon. Certaines autres pages se dégagent un parfum agréable au Seigneur. Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ce parfum de bonne odeur qui s'élève vers toi. Merci Seigneur parce que tu es là ce matin. Tu éclaires la situation. Et quand tu nous éclaires de la sorte, c'est une grâce, une faveur que tu nous fais. Le Seigneur est en contrôle. Il sait toutes choses. Il voudrait simplement nous dire ce matin, puissions-nous tous faire monter vers lui un parfum d'agréable odeur, dit le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cette lumière que tu donnes ce matin dans cette église. Oh, que chacun puisse prendre à cœur ce que tu lui diras personnellement encore au travers de ce message, ce que tu viens de lui montrer déjà un petit peu par ton esprit, tu vas continuer de le faire afin que cette église puisse faire monter vers toi un parfum d'agréable odeur à tes narines, qu'elle puisse te glorifier, Seigneur. C'est notre prière. C'est ton désir, Seigneur. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Si nous voulons la lumière de la vie et que la puissance de Dieu agisse dans notre vie et au travers de notre vie, il faut toujours, toujours se remettre en question et se remettre à la lumière divine qui nous éclaire et enlever toute scorie, toute impureté, toute chose défectueuse dans notre vie. Et dire, Seigneur, lave-moi par ton sang précieux, purifie ma vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Bénis encore cette méditation de ta parole. Seigneur, comme tu as enseigné tes disciples autrefois, enseigne-nous encore. Et surtout, garde-nous d'être des auditeurs oublieux. Mais donne-nous, Seigneur, de serrer cette parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Comme conclusion de message, nous avons parlé sur la nécessité d'être renouvelé dans la vie de l'esprit, combien cela était nécessaire. Car si nous ne sommes pas réellement remplis du Saint-Esprit, dans ces derniers temps, nous ne tiendrons pas. C'est-à-dire que nous risquons de nous égarer, nous risquons d'être paralysés, nous risquons de rencontrer des difficultés insolubles à nos yeux si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. C'est donc, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour tous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas dire, moi, je peux m'en passer. Nous en avons tous besoin. Car l'esprit d'égarement et l'esprit d'apostasie des derniers temps est déjà bien à l'œuvre. Et des multitudes sont déjà tombées le long du chemin. pensant qu'il tout allait bien dans leur vie. Mais ils ont bâti leur maison sur le sable. Le vent a soufflé, la pluie a tombé et la maison s'est écroulée. Tant que tout allait bien, il n'y a pas de problème. Mais quand l'opposition vient, quand la séduction vient, beaucoup succombent. Et grande a été la ruine de cette maison. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas vrai? Mais ceux qui ont bâti leur maison sur le roc. Le roc, c'est Jésus et c'est sa parole. Je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi, qui écoute ma parole et qui la met en pratique. C'est juste, c'est le verset au-dessus. Donc c'est pas seulement Jésus, je t'aime. C'est bien tout ça. Mais le Jésus qu'on aime a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Dire qu'on aime Jésus et qu'on fait fi de sa parole. On n'aime pas Jésus. Tu es déjà séduit toi-même. Tu te séduis toi-même. Comment ça? Vous ne pouvez pas me dire ça. Comment pouvez-vous me dire ça? Ce n'est pas moi qui vous dis ça. C'est Jésus qui vous dit cela. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et le verbe garder veut dire garder précieusement. Considérer cette parole comme prioritaire, comme rien d'autre de valable au-dessus de cela. C'est quelque chose, c'est l'autorité finale dans ma vie et dans la vie du chrétien. Il n'y a rien de plus. Et nous devons combattre pour cela, nous dit l'apôtre. À combien de reprises? Combat, le bon combat de la foi. De la foi. Il nous faut donc pour cela, être rempli du Saint-Esprit. Et nous allons voir brièvement, parce que beaucoup disent, mais moi je suis rempli du Saint-Esprit. Moi je suis rempli, beaucoup peuvent dire, pour qui vous prenez, moi je suis rempli du Saint-Esprit. N'importe qui peut le dire, vous êtes d'accord avec moi? N'importe qui. Même si on est rempli de courant d'air, ça c'est une chose. Rempli de soi-même, beaucoup, oui. Mais nous allons voir ce que la Bible dit au sujet d'un homme, tout simplement, qui était, lui, vraiment rempli du Saint-Esprit. Et voir un peu dans quelques détails de sa vie, tout simplement, qui vont nous révéler ce qu'est une personne, un chrétien, vraiment rempli du Saint-Esprit. Et c'est à nous de voir si nous marchons sur ces traces-là et si ces fruits-là sont vraiment dans notre vie. Cette personne, c'est Étienne. Étienne, acte chapitre 6, on peut lire à partir du verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Les hellénistes, donc, c'était un peu les Grecs, ceux qui étaient Grecs, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a lu? Que ces hommes devaient être pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et ici, nous voyons Étienne plein de foi et d'Esprit Saint. Il y a aussi Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance. Voyez-vous, tout à l'heure, il était quoi ? Plein de foi et d'Esprit Saint. Et maintenant, Étienne, plein de grâce et de puissance. S'il y a vraiment quelqu'un qui est rempli, il est là, hein ? Faisant des prodiges et de grands miracles parmi la foule. Ensuite, il y a tout le discours. Et au verset 8, oui, donc on va en rester là pour le moment. Donc, nous voyons par là que Étienne était donc un homme plein de foi, d'Esprit Saint, de grâce et de puissance. C'est donc là le modèle d'un chrétien qui est vraiment rempli du Saint-Esprit. Et vous le remarquez, les apôtres ont dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme qui soit particulier. Cela veut dire que tous ceux qui étaient là n'étaient pas tous remplis du Saint-Esprit. Même en ce temps-là, il fallut faire un choix. Tous ne l'étaient pas. Et ils ont dû choisir des personnes pour un travail bien précis. Voyez-vous comme Dieu fait bien les choses, comme les apôtres faisaient bien les choses. Ils ne mettaient pas des responsabilités n'importe qui, quelqu'un qui avait un titre ou qui savait bien parler. Il y avait des qualifications spirituelles avant toute chose. Et dans l'Épître à Timothée, quand Paul parle des ministères et tout cela, il y a toujours en priorité le caractère de la personne, des qualifications spirituelles, avant les qualifications académiques ou intellectuelles. Amen. Ce ne sont pas les titres qui impressionnent le Seigneur, Amen. Les diplômes qui impressionnent le Seigneur, la grandeur de quelqu'un, la personne imposante, quelqu'un qui sait bien parler. C'est bien de savoir parler, mais ce n'est pas cela qui impressionne le Seigneur. Ce qui impressionne le Seigneur, c'est ce qu'il y a là. Amen. Le caractère. Et c'est là qu'il cherche des qualités. Parce que le reste, c'est tout ce qui frappe au regard des hommes. Et la Bible dit bien, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Voilà. Et nous, mes amis, et moi aussi, je fais bien souvent, je me suis fait avoir avec ça. En regardant telle personne, je me suis là, oh là là, ça va être quelqu'un. Quelque temps après, j'apprends que, pouh, il a complètement coulé, il n'y a plus rien du tout. Et un autre, timide dans un coin. Je suis là. Tu te demandes si le Seigneur va faire quelque chose avec celui-là. Tu reviens quelques années après, il est là, et il a grandi. Son visage s'illumine. Quelque chose se passe en lui. Il est là. Il est là. Personne ne l'apercevait. Mais il y avait quelque chose de profond dans son cœur. Et c'est là que Dieu regarde, mes amis. Un homme rempli du Saint-Esprit, qui est-il ? Étienne. Et la première des qualités, nous l'avons lu. Nous l'avons lu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Au verset 3, 6-3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme. Alors la première qualité, c'est laquelle ? Elle est là tout de suite. De qui l'on rende un bon témoignage. Ah, voilà. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui rend... De qui on rend un bon témoignage ? Pas seulement qui rend lui-même un bon témoignage. Parce que nous, on peut se dire beaucoup de choses de bien de soi. On peut même un peu exagérer les choses, aller un peu trop loin. Mais les autres ne le savent pas, ça fait rien. On peut se vanter, vous êtes d'accord avec moi. On peut dire beaucoup de choses sur nous-mêmes. Bon, vous ne savez pas, moi j'ai un ministère. Ouais. Vous voulez ma carte aussi? Mais j'en ai des cartes. Choisissez un homme de qui l'on rend un bon témoignage. C'est tout à fait autre chose, cela. C'est les autres. qui ont observé la vie de cette personne. Et en général, quand on rend témoignage, ce n'est pas tellement à l'église, parce qu'à l'église, on est tous gentils. Bon, à l'église, on est tous des anges, j'allais dire. Quand on chante, regardez. On est tous des anges. Quelqu'un peut parler comme un apôtre, il peut prêcher comme un apôtre, il peut chanter comme un ange. À l'église, on est tous bien, on est tous beaux. Et ce n'est pas là que les apôtres ont cherché la personne. C'est bien de chanter comme un ange et de prêcher comme un apôtre. Là n'est pas le mal, certainement pas. C'est quand tu sors de l'église que tu révèles qui tu es vraiment. Ce que je veux dire, de qui l'on rend un bon témoignage, mes amis, ce que vous êtes, ce n'est pas tellement à l'église que vous le révélez, mais c'est en dehors de l'église. Et vous savez, il n'y a pas besoin d'être un prophète pour cela. Combien de chrétiens sont comme des anges à l'église, mais chez eux, c'est des véritables démons. Au travail, vous ne les reconnaissez plus. Il n'y a plus, le témoignage chrétien n'existe pas. Ils vont quelque part, il n'y a plus rien de chrétien. Il n'y a plus rien de chrétien. On a l'impression que, en quittant l'église, ils ont quitté leur habit religieux, leur habit de chrétien, et ils s'en vont. On fait comme avant. Avec un païen, on est très bien avec lui, comme si de rien n'était. On est bien avec tout le monde. Rien du tout. Le témoignage, on n'en a pas à l'extérieur. On dit qu'on est chrétien, mais on ne vit pas ce qu'on dit. Et cela, il faut bien que ça pénètre en nous, mes amis. Cela est un point important. Nous pouvons dire beaucoup de choses, mais ce qui impressionne Dieu et ce que Dieu approuvera, c'est ce que vous vivez. Que l'on rende de lui un bon témoignage. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de dire quoi que ce soit. Les autres le voient. Les autres vous observent. Et lorsqu'un besoin est là, alors le travail ne manquera pas. Et surtout, les uns vous voient, mais Dieu vous voit par-dessus tout. Amen. Et tôt ou tard, il fera en sorte que vous puissiez faire ce qu'il vous demande de faire. Et qu'ainsi, l'œuvre de Dieu puisse commencer dans votre vie. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est important. C'est la première qualité. Et c'est là que nous ne faisons pas assez attention. Quel est votre témoignage en dehors de l'église, à la maison, avec ta femme, au travail, avec lesquels tu travailles? Est-ce qu'ils savent vraiment que tu es un chrétien, que tu vis comme un chrétien? Là, dans la rue où tu es, est-ce qu'on te reconnaît comme un chrétien? Ou c'est seulement une question de chrétien du dimanche? Et en dehors de ça, il n'y a plus rien du tout. De qui l'on rende un bon témoignage, c'est là un point important. Et c'est bien avant qu'on l'appelle qu'Étienne rendait ce bon témoignage, n'est-ce pas vrai? Il n'a pas attendu qu'on l'appelle pour rendre un bon témoignage. Il y en a qui attendent qu'on les appelle pour commencer à bien travailler. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est bien avant, bien avant. Parce que là, il faut qu'on soit testé, retesté, éprouvé, réprouvé encore. C'est dans l'épreuve qu'on fait ces preuves. Un homme de qui l'on rend un bon témoignage. Est-ce qu'on rend un bon témoignage de vous? Et il semble qu'ils étaient unanimes là, n'est-ce pas vrai? On a l'impression que, voilà, tout le monde, pour ces sept là, ah oui, oui, celui-là, oh là là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mais avec certains, il y a toujours un petit doute qui est là. On n'arrive jamais à cerner la personne. On pourrait les appeler Monsieur Mystère ou Madame Mystère. Des personnes mystérieuses. Un jour, ils sont en haut, le lendemain, ils sont en bas. Un jour, ils sont bien, le lendemain, vous ne pouvez plus leur parler. Le témoignage n'est pas stable. Avec le monde, on fait comme le monde. Et avec les chrétiens, on fait comme les chrétiens. Vous allez me dire, mais vous croyez, ça existe de telles personnes? Malheureusement, ça existe. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que le Saint-Esprit, on parle d'être d'une personne remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, veille à ce que notre témoignage soit d'abord impeccable. Je ne veux pas dire qu'on est parfait, mais le Saint-Esprit, c'est comme s'il nous disait dans notre cœur, eh bien, si tu veux un jour que Dieu t'utilise, il faut d'abord que ton témoignage, que tu aies un bon témoignage, que tu ne sois pas hypocrite, qu'il n'y ait pas deux personnes en nous. L'hypocrite, vous savez ce que c'est quelqu'un qui porte un masque. Il vient à l'église, il porte un masque. Ah, formidable. En partant d'ici, il porte un autre masque. Il n'est plus le même. Il faut cesser de jouer au carnaval. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a qui ont une dizaine de masques à la maison. Quand il faut aller tel endroit, c'est tel masque. Tel endroit, c'est tel masque. Tel endroit, c'est tel masque. C'est des chrétiens masqués. Et le Saint-Esprit veut te démasquer. Pour te dire, sois vrai. Sois authentique. Et le Saint-Esprit veille à cela. Et si tu veilles, toi, à cela, l'Esprit de Dieu te viendra en aide. Tu verras son approbation. Tu verras son secours. Tu seras étonné. Même si cela n'est pas à la mode. Mais en tout cas, à la mode, avec l'Esprit de Dieu et avec la parole de Dieu. Alléluia.
Amen.
Et c'est son approbation qui compte, et non l'approbation des hommes.
Amen.
Des hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Que fais-tu en dehors de l'Église? Comment te comportes-tu? Est-ce que l'on peut dire vraiment, ça c'est une chrétienne? On n'est pas d'accord, mais elle vit comme une chrétienne. Il vit comme un chrétien. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas le cas, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous déshonorez le Seigneur. Et les gens ne vous le disent pas, mais ils se disent, si c'est ça les chrétiens, eh bien, au revoir. N'est-ce pas vrai? Si c'est ça un chrétien, au revoir. Et s'il sait où vous allez à l'église, il ne mettra jamais les pieds dans cette église. Il vous suivra. Où il va? Ah, il vient ici, cet hypocrite-là. Il vient là! Eh bien, jamais je mettrai les pieds là-dedans. Mais par contre, si sa vie est une vie droite, sans hypocrisie, sincère, même ses ennemis le respecteront. Et quand il rentrera dans l'église, il dit, certainement dans cette église-là, il y a quelque chose. Peut-être qu'un jour je viendrai. Un homme rempli du Saint-Esprit, une femme remplie du Saint-Esprit, veille à son témoignage, en dehors de l'église, partout où il se trouve, il veut honorer son Seigneur, parce qu'il vit dans la présence de Dieu, pas seulement à l'église, mais aussi en dehors, et partout où il va. Amen.
Amen.
Avez-vous ce sentiment de vivre dans la présence du Seigneur, partout où vous allez? C'est cela qu'il faut. Pas seulement ici, merci Seigneur pour ta présence, mais ensuite il faut partir. Et la présence du Seigneur doit vous accompagner. Vous devez vivre comme étant dans sa présence. Et c'est ainsi que le témoignage change. Amen. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu approuvera cela, vous renouvellera dans ses désirs. On peut avoir des combats qui n'ont pas de combat, mais il y a toujours ce désir. Seigneur, je veux te plaire, je veux te ressembler, je veux un témoignage authentique. Et l'Esprit de Dieu sera là pour t'aider, t'encourager, te corriger quand il le faut. Une deuxième qualité maintenant. Nous avons vu au verset 2, il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables. Donc, la personne qu'il recherchait était des personnes qui voulaient servir aux tables. Autrement dit, c'est une personne qui est disponible pour les plus petites tâches. Voilà. Une personne remplie du Saint-Esprit se voit à la façon avec laquelle elle fait les plus petites tâches. Quand les plus petites tâches, nous les faisons pour Dieu, cette petite tâche devient une grande tâche. Mais quand nous ne faisons pas ces tâches-là pour Dieu, la plus grande tâche que nous faisons, si nous ne la faisons pas pour Dieu, elle est très petite à ses yeux. Mais la plus petite faite pour Dieu, elle est très grande. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur est très grand. Et tout ce que nous ne faisons pas comme pour le Seigneur est très petit. L'Esprit de Dieu veut nous amener à cette disponibilité dans les tâches les plus petites. Voilà une personne remplie du Saint-Esprit. Et c'est là que beaucoup d'entre nous, nous ne veillons pas. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Quand nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit, les plus petites choses, nous les faisons vraiment de tout notre cœur. Nous ne négligeons rien de ce qu'on doit faire. Tout est bien fait comme pour le Seigneur. Il y a trop de chrétiens qui font la tâche quand tout le monde est là pour les voir. Qu'est-ce qu'on fait d'exceptionnel ? Mais quand il n'y a personne pour te voir, qu'est-ce que tu fais ? Je ne fais plus rien. C'est tout simple. Quand c'est devant tout le monde, je fais beaucoup de choses. Mais quand c'est devant personne, je ne fais plus rien. Ben oui, il n'y a personne. Ce n'est pas intéressant. Il n'y a personne pour me voir. Oh, vous vous rendez compte ? Personne pour me voir. Et personne pour m'applaudir. Ce n'est pas intéressant. Mais oui, il y en a un qui est là pour t'applaudir. C'est le Seigneur. Et c'est l'Esprit de Dieu aussi qui est là en toi, qui veut t'approuver, qui veut t'aider. Mais ça, ça ne nous intéresse pas. Aucun chrétien ne peut dire, moi, je n'ai pas de tâche. Nous avons tous une tâche. Mais Dieu commence toujours avec les plus petites. Mais nous, on est trop grands pour faire les plus petites choses. On est trop grands. Comme je l'ai dit un jour, je ne sais pas si je l'ai dit ici, j'avais lu cette pensée. Entre les grandes choses que nous ne pouvons pas faire et les petites choses que nous ne voulons pas faire, nous risquons de ne rien faire du tout. Entre les grandes que nous ne pouvons pas, les petites que nous ne voulons pas, nous risquons de ne rien faire du tout. Et voilà ce qui se passe. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne néglige absolument rien. Et je peux le dire, dans notre ministère, on a commencé plus petit, le plus petit possible. Nos campagnes d'évangélisation dont vous entendez parler, où il y a des milliers de personnes, vous savez comment ça a commencé, nos campagnes d'évangélisation ? Peut-être c'est bien que vous le sachiez. Parce que certaines personnes pensent que nous, ça nous est tombé du ciel comme ça. 20 000 personnes qui viennent, des aveugles qui voient. Et puis certains disent, oh, mais moi c'est comme ça que je veux commencer mon ministère. Et ils ne commenceront pas autrement sans ça. Mais vous oubliez comment on a commencé ? Lorsque nous étions missionnaires en Afrique, Dorothée, on avait deux enfants, Priscilla et la petite Christine. Elle avait sa guitare, Dorothée, on avait une petite voiture. Et on nous appelait la voiture Alléluia. On allait dans les petits villages, au Centrafrique, à Bangui, dans les villages. Et vous savez, on a commencé sous un manguier. Un manguier. Et j'avais appris le sango à ce moment-là, la langue du pays. Et alors là, Dorothée et tout ça, tous les deux ont commencé à chanter des chants. Et quelques personnes arrivaient, deux, trois grands-mères, deux, trois personnes qui avaient bu un peu trop bu. Ils étaient là, qui nous écoutaient. Et deux, trois enfants qui étaient là, qui venaient jusqu'à nos pieds et qui nous écoutaient. Voilà, notre campagne d'évangélisation a commencé comme ça. Et je prêchais de tout mon cœur à ces quelques personnes. Et après, je faisais un appel aussi. Et on voit les enfants et même les autres, tout le monde s'approche. Seigneur, voilà comment on a commencé notre ministère d'évangéliste. Et je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Là, Dieu m'a éprouvé. Et je le faisais sincèrement, de tout mon cœur. Je n'ai jamais cherché la foule. C'est Dieu qui l'a donnée. Je n'ai jamais rien fait pour chercher la foule, mais Dieu l'a donné. Mon seul désir et notre seul désir, c'est d'être fidèle dans les plus petites choses. J'ai dit, Seigneur, un jour, tout ce que les autres ne veulent pas faire parce que c'est trop petit, moi je veux le faire. Moi je veux le faire. Rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là. C'est comme cela que ça commence. Sinon, vous passerez à côté de beaucoup de choses, à côté du ministère que Dieu voudrait vous donner.
Depuis des années que vous cherchez de grandes choses, arrêtez! Commencez à être fidèle dans les plus petites choses. Et là, Dieu va vous former. Ah, c'est dur, hein? Bah oui, c'est dur. Ça commence comme ça. Mais vous pensez que vous croyez que je dois faire ça? Oui. C'est comme ça. Avec Dieu, ça commence toujours petit. Et ça va en grandissant. Avec les hommes, ça commence toujours grand. Et ça finit en diminuant. Pour disparaître complètement. Comment voulez-vous faire? Il y a deux principes. Le principe des hommes ou le principe de Dieu. C'est à vous de choisir. À vous de choisir. Moi, j'ai choisi d'accepter le principe divin. Amen. Le principe divin, choisissons cela. Fidèle dans les plus petites choses. C'est là que Dieu nous forme et que l'Esprit de Dieu vient nous aider. Vous serez étonné dans ces plus petites choses. Vous serez étonné de voir l'aide du Saint-Esprit. Comment le Seigneur vient vous aider pour vous dire, pour vous donner ce qu'il faut donner, pour comprendre ce qu'il faut comprendre. Vous verrez que Dieu est là. Si les hommes ne sont pas là, Dieu est là. Dieu est là et il est en train de te former. Choisissons cet homme qui puisse servir aux tables. Est-ce que Étienne a rouspété? Rien de ce qu'il a réclamé, quoi que ce soit. Il était prêt, rempli pour les plus petites tâches. Il ne se sentait pas humilié à faire les petites tâches. Il se sentait honoré parce qu'on fait les choses comme pour Dieu. Et non pour les hommes. Et le service, mes amis, c'est un honneur que Dieu nous fait. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons certainement pas de servir notre Dieu. Nous ne méritons que sa juste condamnation. Le servir est un honneur, un grand honneur. Ce que tu fais pour le Seigneur, est-ce que tu négliges les petites choses? Est-ce que tu cours seulement après les grandes choses? Tu risques de courir toute ta vie pour finir par faire naufrage dans ta foi. L'Esprit de Dieu est là. Il cherche des hommes et des femmes qui soient fidèles, disponibles dans les plus petites choses et qui font tout cela comme pour le Seigneur. Seigneur, tu es là, ça suffit. Alléluia. Tu es là, c'est pour toi que je le fais. Je ne le fais pas pour les hommes, pour toi. Et quand c'est pour lui, on le fait bien. Et j'allais dire, on le fait même très bien. Et je dirais encore mieux, on le fera encore mieux que bien. On le fera encore très, 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 très bien. Quelle joie. Et l'Esprit de Dieu est là, on est content. La joie qui est là, vient d'où? Du Saint-Esprit en nous, on est content. On est rempli! On est rempli! Et beaucoup ne connaissent pas cette plénitude-là et cette joie-là. Parce qu'ils sont trop grands à leurs propres yeux. Une autre qualité d'Étienne qu'on ne peut pas ignorer, eh bien, on la trouve tout simplement dans tout le chapitre 7, acte 7. C'est le discours d'Étienne, acte chapitre 7. C'est le discours d'Étienne. C'est très rare dans le Nouveau Testament qu'on ait tout un discours comme cela. Il n'y a même pas les discours de Paul, on ne les a pas, en longueur comme cela. Mais le discours d'Étienne est là. Troisième qualité, c'est donc un homme rempli de la parole de... Voilà pourquoi il était rempli du Saint-Esprit, parce qu'il était rempli de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on se dit rempli de la parole de Dieu, mais on ignore tout des Écritures, on ne fait rien du tout. La preuve, c'est qu'on accepte n'importe quoi, qui ne sont pas dans les Écritures. On accepte n'importe quoi, on pense que tout ce qui vient du ciel vient de Dieu. Tout ce qui vient, je veux dire, tout ce qui est surnaturel vient de Dieu. Tout ce qui est surnaturel ne vient pas de Dieu. Cela peut venir de Dieu, mais aussi cela peut venir d'en bas. Parce que la Bible parle de miracles mensongers. Remplis de la parole de Dieu. Et au verset 7, 6, 7, regardez ce qu'il est dit. Toujours dans les actes. Hein. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Écoutez-moi bien là. Souligné dans notre Bible, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Il y a là, et on le voit à plusieurs reprises dans les Actes, la parole de Dieu se répandait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Quand, soi-disant, il y a quelque chose qui se passe quelque part, l'Esprit de Dieu se répand. L'Esprit de Dieu, on dit, c'est ce qu'on dit. Mais la Bible ne parle jamais de cela, n'a pas ce langage-là. À aucun moment, vous ne trouverez dans les Actes que l'Esprit de Dieu se répandait. Mais vous entendrez, vous lirez, la parole de Dieu se répandait. Et quand la parole de Dieu se répand, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est derrière. Pour confirmer cette parole. Amen. Et voilà une leçon importante. Étienne, vous lisez ce discours. J'ai essayé de le lire encore tout à l'heure. Quelle sagesse, quelle connaissance, quelle exactitude. Il connaissait cette parole d'une manière exacte. Nous, on a beaucoup de versets dans la tête, mais ils sont tous tordus dans la tête. C'est tous des textes que l'on prend hors du contexte. Et on en fait des prétextes, comme je le dis souvent. Mais il est bon de le dire et de le répéter encore. On peut faire dire à la Bible tout ce qu'on veut, mes amis, même le contraire de ce qui est écrit. Et là, on voit, il parle de l'histoire d'Israël, l'appel d'Abraham, toutes les choses, comment elles se sont passées. Et il a une connaissance exacte des choses. À quel moment Dieu a appelé Abraham, a appelé Moïse, et à quel moment Israël s'est opposé à Moïse. Après, comment ils se sont opposés à Joseph? Et c'était pour leur montrer que, finalement, ils avaient été un peuple rebelle. Un peuple rebelle. Dieu leur avait fait tant de grâce. Et même jusqu'à la fin, il leur dit, et vous avez aussi renié le saint et le juste en leur parlant de Jésus. Voyez-vous, il voulait les préparer comme pour dire, dans votre histoire, vous avez été même idolâtres. Vous avez rejeté les prophètes, Moïse, Joseph et tous les autres. Et le dernier est venu, le plus grand, le Fils de Dieu. Et vous l'avez rejeté. Alors là, ils n'ont pas pu supporter la chose. Et là, en entendant ces paroles, au verset 54, il est dit, ils étaient furieux dans leur cœur. Et au verset 51, il leur dit, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. Eux qui se vantaient d'avoir gardé la loi. Hein? Ils s'en vantaient. Et maintenant, Étienne leur prouve que c'est le contraire. Alors là, ils ne pouvaient pas supporter. Mes amis, que c'est dur. Quand vous entendez la vérité, vous savez que c'est vrai, mais vous ne voulez pas l'accepter. Vous savez que c'est vrai, mais votre orgueil ne peut supporter cela. C'est trop. Et un homme comme cela, rempli, plein de grâce, de puissance, d'Esprit Saint, de foi, comment peut-on s'opposer à un tel homme? On pourrait dire, mais c'est pas possible. Et malheureusement, c'est possible. Parce qu'il était rempli de la parole de Dieu. Et cette parole dérange parfois, n'est-ce pas vrai? Et Étienne, c'est le premier martyr de la foi, de quelqu'un qui a été fidèle à la foi et qui est mort pour la saine doctrine. Ça, c'est le premier martyr de l'Église qui a combattu la foi, pour la foi et pour la saine doctrine. Et ces hommes étaient là. Ils ne voulaient pas changer. Il en est de même aujourd'hui, mes amis. Beaucoup, quand ils entendent la parole de Dieu, qui les dérange, ils n'acceptent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas admettre qu'ils ont tort. Et c'est comme cela qu'ils n'en sortent pas. Et qu'ils tournent en rond dans leur vie chrétienne. Mes amis, la parole de Dieu est là. C'est elle seule qu'il faut suivre, et non pas un homme, non pas une vision ou une nouvelle révélation, mais la parole de Dieu qui demeure éternellement. Amen. Et il était rempli de cette parole. Voilà pourquoi il était rempli du Saint-Esprit. Si vous méditez cette parole, pas seulement les passages qui vous conviennent, mais aussi les autres, eh bien, cette parole fera son œuvre en vous. Elle sera là, et au moment voulu, Dieu vous utilisera pour la communiquer, et le Saint-Esprit viendra là pour vous souffler les bonnes paroles, pour que votre témoignage soit efficace et percutant. Alléluia! Et est-ce qu'on l'a arrêté, Étienne? Personne n'a pu l'arrêter. Il est allé jusqu'au bout. Quel amour, quelle fidélité. Un homme rempli de la parole de Dieu. La question est toute simple. Est-ce qu'on peut être rempli de la parole de Dieu? Vous avez la Bible. Vous savez, une fois, en Suisse, on est allé à une réunion. Ça m'a surpris. J'avais jamais vu ça. J'ai vu que les chrétiens arrivaient. Ils n'avaient rien dans les mains, comme ça. L'église était au premier ou deuxième étage. Et quand ils arrivaient, il y avait des rayons comme ça. Il y avait dans chaque rayon des Bibles et un cantique. Chaque chrétien allait prendre sa Bible et son cantique. Et ils faisaient l'étude biblique. Et après, quand ils sont retournés à la maison, ils remettaient la Bible là, le cantique là. Et ils s'en allaient. J'ai été surpris. Alors qu'est-ce qu'ils font à la maison? On regarde quoi? Comment voulez-vous que ça marche? Et comment voulez-vous que Dieu puisse utiliser de tels chrétiens remplis de la parole de Dieu? Vous ne pouvez pas séduire quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui ne l'est pas, vous pouvez le séduire comme vous voulez. Facile! Et le diable en profite! Et c'est ce qui se passe dans les temps que nous vivons. Toute cette confusion actuelle. Il faut qu'on en parle et qu'on en reparle pour en tirer des leçons. Il y en a qui disent, c'est passé tout ça, cette confusion un peu avec Toronto et tout ça, c'est passé. Maintenant, il ne faut plus en parler. Comment on ne peut en parler? Il faut en tirer des leçons. Sinon, on retombera dans d'autres pièges encore. Et ce sera pire cette fois. Il faut en tirer des leçons. Quelqu'un qui est rempli de la parole, vous ne pouvez pas le séduire facilement. Il vous dira, halte là mon ami, halte là. Où est-ce que Jésus et ses apôtres ont prêché ça? Où est-ce que Jésus et ses apôtres ont prêché ce que tu me dis là? Ont pratiqué ce que tu vois, ce que tu montres là? Où est-ce que Jésus a fait ça? Et ses apôtres? Puisque c'est eux le modèle, vous êtes d'accord avec moi? L'église fondée sur Jésus, la pierre angulaire, et sur les apôtres. C'est là que l'église est fondée. Et tout ce qui n'est pas fondé là-dessus ne vient pas de Dieu. C'est un autre évangile. C'est un autre évangile. L'apôtre parle d'un autre évangile, d'un autre esprit. Et même d'un autre Jésus. Ah bon? Ça existe? Ah oui? Eh bien, c'est en lisant, en étant rempli de la parole qu'on s'en rend compte. Mais mes amis, si vous n'êtes pas rempli de cette parole, si vous ne la méditez pas sincèrement, si vous ne vous laissez pas sonder par cette parole pour changer aussi quand il le faut, alors à ce moment-là, vous serez séduit et reséduit et séduit encore. Il faut que cette parole pénètre, nous sonde, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, que nous ne fassions pas comme les Israélites. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Vous vous rendez compte? Si je pouvais le faire. Et pourtant, quand il parlait comme cela, son visage était semblable à celui d'un ange. Ils ne voyaient pas un démon devant eux. C'était comme le visage d'un ange. Le démon était où? Il était bien dans leur cœur. Parce qu'ils ne voulaient pas changer. Ils ne voulaient pas croire qu'ils avaient fait fausse route. Et souvent on nous dit, vous résistez au Saint-Esprit quand vous n'acceptez pas ces choses. Qu'est-ce qui se passe? On vient de le lire ici. C'est Étienne leur dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce n'est pas celui qui obéit à la parole de Dieu qui résiste au Saint-Esprit. C'est celui qui s'oppose à la parole de Dieu qui résiste au Saint-Esprit. Et on veut nous faire croire que c'est nous qui résistons au Saint-Esprit parce qu'on ne croit pas n'importe quoi. Alors vous résistez au... Regardez-moi ça, les menteurs. Ce qu'ils sont, ils veulent que le mettre sur nous. Ce n'est pas moi qui résiste au Saint-Esprit quand je prêche la saine doctrine. C'est toi qui résiste au Saint-Esprit quand tu dis quelque chose qui n'est pas conforme à la saine doctrine. C'était le cas avec Étienne. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit parce qu'ils avaient fait des choses qui ont déshonoré Dieu. Je lisais encore, ils avaient, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Ramfam, ces images que vous avez faites pour les adorer. Verset 43, toujours dans 6. Pour les adorer, vous vous rendez compte, Israël, où Dieu leur avait interdit d'avoir des idoles. Et les voilà qui adorent des idoles. Bien faire attention de ne pas faire certains prédicateurs son idole. Mes amis, les choses sont extrêmement sérieuses. La vie chrétienne n'est pas un show, un programme où on est là pour se montrer. C'est une vie que l'on doit vivre pour le Seigneur, remplie du Saint-Esprit, remplie d'humilité, remplie de la parole de Dieu, remplie du désir de glorifier Dieu et d'être fidèle à sa parole. Amen. Une quatrième qualité, elle est dans ce que je viens de vous dire un peu plus, c'était un homme fidèle et courageux. Il était courageux. Toujours en rapport avec le chapitre 7. Il n'était pas seulement rempli de la parole, mais il était aussi courageux pour dénoncer ce qui n'allait pas. Voyez-vous, relisez le chapitre 7 à la maison. Vous verrez qu'il ne les a pas. Et il leur a montré tout ce qui n'allait pas. Il était donc courageux. Aujourd'hui, on veut bien annoncer des choses. On est rempli de la parole, mais que des paroles qui... Dieu vous bénisse, Dieu vous aime. Oh, extraordinaire! Et puis on couvre tout, Et on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ouh, formidable! Et Dieu fera ceci, Dieu fera ça. Non. Si tu es prédicateur, c'est toi qui es responsable. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes responsables. Et il était courageux, Étienne. Il n'a pas seulement dit, c'est bien, c'est merveilleux. Oui, vous avez quand même cru en Moïse, en Joseph. Vous l'avez rejeté, mais enfin, bon, vous l'avez jeté dans un puits. Bon, ben, tant pis pour lui. Hein. Mais enfin, bon, ben, mais ça va, c'est pas grave. Non. Il a été courageux pour leur dire ce qu'ils devaient entendre et qui ne leur plaisait pas. Voilà un homme rempli du Saint-Esprit. Il n'y a qu'une personne remplie du Saint-Esprit qui peut faire ça. Si tu n'as pas le courage de dire la vérité quand elle dérange, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et que ce soit, c'est valable pour les prédicateurs et pour les chrétiens. Je ne parle pas seulement pour quelques personnes, pour tout le monde. Si nous n'avons pas le courage de dire la vérité quand elle dérange, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. C'est une illusion. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Étienne, il l'était vraiment. Parce qu'il n'avait que la gloire de Dieu en vue. Il ne se faisait pas un show de lui-même. Un homme fidèle et courageux. Voilà ce que Dieu cherche dans ces temps de la fin. Serez-vous cette personne-là? Voulez-vous être courageux et dire les choses quand il faut les dire et ne pas se taire quand il faut parler? Le mal, mes amis, dans la Bible et les fausses doctrines, puisqu'on parle de cela, dans la Bible sont comparés, dans l'Épître à Timothée, vous savez comme moi, à de la gangrène. La gangrène. C'est quoi la gangrène? C'est un cancer. Est-ce qu'on peut dire que en priant comme ça, la gangrène va partir tout seul? Ça ne part pas comme ça. Quand la gangrène est là, il faut... Si la gangrène est là, il faut intervenir. Il faut trancher. Il faut couper. Si vous ne coupez pas, qu'est-ce qui va se passer? Plus vous attendez, la gangrène va aller. Ça va aller dans tout le corps. Vous attendez, bientôt c'est tout le bras qu'il faudra couper. Quand il y a de telles choses, la Bible nous dit de trancher, de nous éloigner, de couper. Il faut faire cela, sinon c'est la gangrène. Et la gangrène se répandant, tout un corps peut être malade. Mais si on le fait tout de suite, que c'est merveilleux. Tout de suite on protège les brebis et on est dans la paix. Et tout le monde peut prospérer, peut-être dans la bénédiction réelle du Seigneur. Amen. Un homme courageux. Il en faut aujourd'hui des Étienne. Mais je termine. Il a été courageux. On l'a calomnié et persécuté. Mais il a été honoré. C'était un homme honoré par son maître. Et au verset 55-56 de 7, vous avez ces belles paroles. Et il vit Étienne, verset 55, mais Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel,
alors qu'il grinçait des dents contre lui, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Au verset 55, il est dit, « Il vit, fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » C'est très rare de voir Jésus à la droite de Dieu. On le voit souvent assis à la droite, assis. Mais là, il est debout. Souvent, on voit Jésus assis à la droite de Dieu, mais il est debout. Pourquoi ? Parce que Jésus, voyant son fidèle serviteur, prêchant la vérité jusqu'à la fin, prêt à mourir pour la vérité et la saine doctrine, Jésus se lève pour honorer de tels serviteurs de Dieu. Il voulait montrer qu'il honorait son serviteur qu'on était en train de lapider. Qualité dont je veux vous nommer maintenant, c'est que cet homme-là, il est rejeté par les hommes, mais il est honoré par son maître. Amen. Ce n'est pas l'approbation des hommes qui doivent compter, mais c'est l'approbation de Dieu. Tu peux être rejeté par les hommes, mais Jésus se lèvera et il te recevra. Si tu l'honores, il t'honorera. Et une autre qualité, pour terminer, et il dit, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Au verset 60. Et puis, après ces paroles, il s'endormit. C'était un chrétien qui a pardonné à ses ennemis, qui a pardonné à ses adversaires, à ses ennemis. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on pardonne à tous ceux qui nous font du mal. Amen. Pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il y en a maintenant, il y a même certains prédicateurs qui maudissent ceux qui s'opposent à leur ministère. Et ils pensent être remplis du Saint-Esprit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit, ça ? Rempli du Saint-Esprit. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Voilà Jésus qui est vu manifestement. Et si tu veux rester rempli du Saint-Esprit, veille à pardonner toujours à ceux qui s'opposent à toi. Ne garde aucune rancune. Ici, ce sont les autres qui le persécutaient. Et il en est bien souvent ainsi maintenant. Ce sont ceux qui prêchent des fausses doctrines qui vous persécutent, qui vous poursuivent, qui vous maudissent. Et ils parlent d'amour en plus de ça. C'est des gens qui ont l'amour de Dieu dans la bouche. Mais quand vous dites quelque chose qui ne leur plaît pas, l'amour a disparu d'un seul coup. Et d'un seul coup, c'est la haine. Si tu veux rester rempli du Saint-Esprit, pardonne à ceux qui te rejettent et reste fidèle au Maître, à sa parole. Dis les choses qui plaisent ou qui déplaisent. Sois fidèle à ton Maître, car un jour tu auras des comptes à rendre. Un jour tu auras des comptes à rendre. Chacun d'entre vous, moi aussi avec vous, chacun aura des comptes à rendre. Et il vous dira, pourquoi tu fais ça? Ah oui, mais l'autre, il a... Comment l'autre? L'autre, c'est quoi l'autre? Chacun devra rendre compte pour lui-même. Il ne va pas te dire, ah oui, mais l'autre, il n'y a pas de l'autre. Qu'est-ce qu'il y avait dans ma parole? Est-ce que tu as fait selon ma parole? Ah oui, mais tu sais, il n'y a pas de tu sais. C'est la parole de Dieu qui nous jugera. C'est écrit. C'est parce que l'un ou l'autre a dit, c'est la parole de Dieu. Laissons-nous donc juger par elle maintenant, afin que nous ne soyons pas jugés un jour. Mais laissons-nous juger pour un jour obtenir la récompense et l'approbation de notre Maître. Ma prière la plus ardente tous les jours de ma vie est celle-ci. Seigneur, que je fasse tout pour te plaire et que tu puisses dire, me dire un jour, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Maître. C'est la seule chose qui compte dans ma vie. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que les autres peuvent dire, je pardonne à tout cela, mais je veux rester fidèle à mon maître. Je ne veux pas devenir un Judas, ni un traître. Je veux être fidèle jusqu'à la mort. Peu importe ce que les autres pensent, Mais cet homme-là sera un jour honoré par son maître. Puissions-nous avoir cette vision-là, mes amis. Ne nous laissons pas arrêter par qui que ce soit. Laissons-nous sonder par cette parole, transformés par elle, et que son image paraisse en nous, comme avec Étienne, comme un ange. Comment peut-on lapider quelqu'un qui ressemble à un ange? Ils auraient tous dû se mettre à genoux. Comment peut-on faire cela? Voyez-vous, jusqu'à tel point, le cœur d'un homme peut être orgueilleux. Non, j'ai raison, je ne veux pas changer. Seigneur, garde-nous d'une telle attitude et donne-nous d'être comme Étienne. J'ai assez parlé, je crois. Courbons-nous dans la prière quelques instants. Seigneur Jésus, tu t'es levé lorsque Étienne était lapidé. Tu ne pouvais pas rester assis. Tu t'es levé pour le prendre avec toi.
C'est vrai, Seigneur.
Dans cette gloire éternelle.
Oh, Jésus.
Il a été fidèle, il a été courageux, et toi, tu l'as honoré. Les hommes l'ont rejeté, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qui comptait pour lui. Mm-hmm. C'était ce que toi, tu pensais de lui. Mm-hmm. Il est près de toi dans la gloire.
Amen.
Un jour, nous devons nous aussi nous présenter devant toi.
Oui.
Puisse, Seigneur, que nos visages ne se couvrent point de honte.
C'est vrai.
Mais qu'au contraire, nous puissions lever les yeux vers toi et dire, Maître, j'ai tout fait, j'ai fait mon maximum pour te rester fidèle.
Amen.
Et chercher ton approbation.
Amen.
Seigneur, nous voici. Purifie-nous, façonne-nous,
Amen.
Transforme-nous et remplis-nous de cette parole qui nous révélera qui tu es. Afin de toujours mieux te connaître et mieux te servir et mieux te refléter.
Amen, Seigneur.
Amen.
Et cette parole qui a transformé Étienne, tu veux aussi t'en servir pour nous transformer. Seigneur, quand Étienne est mort en martyr, tu t'es levé, est-il dit, dans ton ciel. Seigneur, tu honoreras toujours un homme ou une femme qui t'honore.
Amen.
Tu honoreras toujours un homme ou une femme qui se livre jusqu'à la mort à toi, dans la fidélité absolue à ta parole, et débarrassé de cette crainte des hommes. Seigneur, merci. Aide-nous à être de telle personne et à être rigoureuse envers nous-mêmes,
Amen.
Afin que nous ne soyons pas couverts de honte le jour où nous nous présenterons devant toi.
Oui, Seigneur.
Seigneur, merci de nous avertir à temps, pendant que nous sommes encore en mesure de rectifier le tir, de changer les choses dans notre vie. Tu nous fais cette grâce-là. Quand nous serons morts, nous serons de l'autre côté, ce sera trop tard. C'est maintenant que tu veux que nous changions de vie, que nous changions notre comportement, que nous changions notre façon de voir les choses. Le Seigneur a encore une parole à dire dans l'épître de Jacques, verset 3, qui s'adresse ici à cette église. Parce qu'il voudrait que quelque chose change dans ce domaine-là. Jacques 3, verset 5, « La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Par elle, nous bénissons le Seigneur, verset 9, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, c'est écrit. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, mes frères et mes sœurs. Veillons à notre langue, veillons à ce que nous disons, parce que le Seigneur ne veut pas que de notre bouche sortent de la malédiction et qu'ensuite nous disions « Seigneur, utilise-moi pour parler de toi ». Ça ne va pas ensemble. Maintenant, nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu. Et le Seigneur va rencontrer quelques besoins plus personnels au milieu de nous. Tout d'abord, adressons-nous un instant au Seigneur, chacun pour lui-même, pour repasser dans notre cœur ce que le Seigneur nous a dit ce matin. Le Seigneur nous a parlé de diverses manières. Puissions-nous prendre au sérieux ce qu'il nous a dit. Sinon, nous deviendrons des ouvriers inutiles. Seigneur, nous voici devant toi. Fais de nous tous, Seigneur, des personnes qui te ressemblent, des personnes qui te glorifient comme Étienne.
Amen.
Sur lesquelles on peut voir la différence. Que nous puissions tous et toutes être des personnes sur lesquelles se reflète la gloire du Seigneur, la paix du Seigneur, la joie du Seigneur, et aussi la droiture, l'honnêteté, la fidélité. Que tous ces caractères puissent être vus en nous, et la patience aussi. Merci Seigneur, tu nous parles ce matin. Et le Seigneur veut toucher quelques malades au milieu de nous. Il veut en particulier toucher quelqu'un qui a une langue pesante et parfois tu as de la peine à t'exprimer. Ta langue est pesante et c'est un handicap pour toi. Eh bien, le Seigneur, ce matin, veut venir t'aider aussi. Te toucher afin que tu puisses glorifier le nom du Seigneur librement avec ta langue. Seigneur, merci Seigneur de toucher cette personne et de faire ce miracle-là, Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu veux utiliser cette personne pour ensuite aller dire tout ce que tu as fait pour lui. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Un jour, nous avons vu quelque chose de merveilleux. Nous avons vu le Seigneur guérir quelqu'un qui était bègue de naissance. Et le Seigneur a délié sa langue dans sa bouche. Nous avons vu le miracle sous nos yeux. La langue s'est retournée dans sa bouche et il n'a plus jamais bégayé. Eh bien, le Seigneur peut faire cela.
Oh, oui, merci.
Merci, Seigneur. Croyez-le.
Alléluia.
Recevez-le, Seigneur. Seigneur, merci. Louange à toi. Et le Seigneur touche aussi quelqu'un qui a une bronchite, des bronchites chroniques. Toujours, toujours, tes bronches s'infectent. Seigneur, merci, Seigneur, de toucher cette personne-là.
Amen.
Aussi. De la guérir de ses bronchites chroniques.
Amen.
Et que ses bronchites cessent au nom de Jésus. Et pour la gloire de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Et quand tu nous touches, Seigneur, tu fais parfaitement les choses. Merci Seigneur, louange à toi. Alléluia, alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Il y a aussi quelqu'un qui a une douleur dans la poitrine. Que le Seigneur touche maintenant. Le Seigneur sait quel est l'organe qui ne fonctionne pas bien. Mais tu as une douleur dans ta poitrine maintenant. Alléluia. Et le Seigneur enlève cette douleur.
Glorifie ton nom, Seigneur.
Louange
Alléluia.
À toi. Merci pour cette personne que tu délivres de cette douleur et de cette infirmité, peut-être de cette maladie. Toi seul, tu connais. Merci, Seigneur. Merci. Louange, louange. Louange à toi. Et quelqu'un aussi qui a une faiblesse dans le genou. Un genou douloureux. Eh bien, le Seigneur aussi touche ton genou, reçois la guérison du Seigneur et que ton genou se fortifie et que ton genou soit libéré de toute douleur au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. C'est lui le grand médecin de notre âme et médecin de notre corps aussi. Merci Seigneur, le grand médecin. Et pour le médecin de son âme, le Seigneur a encore deux paroles prophétiques à adresser pour des situations particulières. Une personne se trouve ici souvent. Tu te sens oublié du Seigneur, oublié par le Seigneur. Et le Seigneur te dit, tu penses parfois que je t'ai oublié et tu ne vois plus ma main dans ta vie. Comme tu ne peux apercevoir la main de celui qui tient les étoiles dans le ciel et de celui qui les empêche de tomber, il y a aussi pour toi, mon enfant, une main invisible pour te secourir quand tu en as besoin. Ne t'ai-je pas envoyé mon ange gardien pour cela? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Les anges sont à mon service et je les envoie précisément vers ceux qui m'appartiennent pour exercer leur ministère de secours envers eux. Ma force, te dit le Seigneur, de protection pour toi est puissante et efficace. Je ne t'ai pas oublié, te dit le Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Merci, Seigneur.
Tu n'es pas oublié du Seigneur. Oh non. Oh non. L'ange de l'Éternel campe constamment autour de toi et t'arrache à chaque danger, alors fais-lui confiance au Seigneur qui intervient quand c'est difficile, quand tu ne sais plus comment faire face au danger. Le Seigneur est là. Et l'ange de l'Éternel est là pour te fortifier. Une personne qui craint l'avenir parce qu'elle a eu tant de problèmes ces dernières années. Et le Seigneur te dit, souviens-toi que ce qui s'est passé dans ta vie n'est pas une surprise pour moi. Aucune de tes voies m'est inconnue. Aucune de tes circonstances est troublante pour moi. Si tes circonstances actuelles t'effraient et que ton avenir te semble sombre, trouble et même parfois effrayant, rappelle-toi que ton avenir est parfaitement clair pour moi, te dit le Seigneur, et que mes plans pour ta vie sont tout tracés et que tu peux t'y engager sans crainte, que ton chemin soit parsemé de moments calmes ou de tempête, je te tiens par la main. Qu'as-tu à craindre? Je suis moi-même avec toi. Ma main te conduira et ma droite te soutiendra. C'est moi qui contrôle ton présent et ton futur, te dit le Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur.
À toi la gloire.
Tu es celui qui tient toutes choses dans ta main. Et nous voulons te rendre gloire de ce que tu as donné, Seigneur Jésus, ton Fils bien-aimé, pour venir nous secourir, nous sauver, nous libérer, nous guérir, nous consoler,
Amen.
Seigneur, et nous encourager et nous éclairer aussi.
Alléluia.
Merci, Seigneur. À toi la gloire,
toi,
la puissance. Et le règne,
oui,
au siècle des siècles. Amen.
Amen. Amen. Oui, vous...